Bienvenue à toutes et à tous, habitués ou invités d'un jour. On est content de vous voir et de vous avoir avec nous. C'est le Seigneur qui vous accueille dans sa maison, une maison où il demeure par son esprit et par sa parole. Bienvenue aux enfants et aux jeunes. Oui, toi Sarah, jeune adulte. Mais on est content de vous voir aussi après cette période de confinement. Je m'adresse surtout aux enfants. J'espère que tout va bien pour vous, les enfants, que vous avez passé une bonne période à la maison, puis vous êtes de retour à l'école quand même. Mais vous nous avez manqué. Bon, j'espère que vos parents ont été sages pendant cette période. Oui, sages. Ah, pourquoi vous baissez la tête? Oui, bof, ok. Alors ce matin, nous aurons un culte un peu spécial. Ce sera un culte avec... témoignage, un culte spécial témoignage, et ça nous fait plaisir d'entendre ces témoignages, ça change un peu, mais nous en parlerons plus tard. Mais pour l'instant, je voudrais vous accueillir avec les paroles du psaume 40. J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel, il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication, il m'a fait remonter du gouffre et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Et la louange pour notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, ils seront nombreux à mettre leur confiance en l'Éternel. Bienheureux l'homme qui fait confiance en l'Éternel. Et pour exprimer notre confiance et notre joie, nous allons chanter ensemble un cantique nouveau, enfin, qui n'est pas très nouveau, qui est plutôt ancien, mais c'est Maranatha, viens Seigneur, viens. C'est vrai qu'on aurait envie de le chanter debout et sans masque, mais vous le chanterez assis et avec masque. Mais de tout votre cœur néanmoins, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, point d'interrogation. Pas des montagnes, ni de l'Everest, ni du Mont Blanc, mais le secours me vient de l'Éternel. Qu'il y avait des enfants qui avaient fait du kayak ici. Kayak ou canoë? Kayak? Et alors, je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce qui est le plus difficile avec le kayak? De pas tomber à l'eau? C'est pas bête, ça. Et surtout, moi, j'en ai fait un peu de kayak. Le plus compliqué, c'était de monter. dans le kayak et ne pas tomber en l'eau, à l'eau. Donc tu avais tout à fait raison. Et on les voit, c'est pas tout à fait un kayak, je pense que c'est un canoë, mais bon. Hein. Bref, le plus difficile, c'est de monter dans le kayak. On risque la chute parce que c'est assez instable. Alors il faut mettre sa pagaie sur le quai et sur le kayak et on peut y monter en toute stabilité. Mais bon, même si on risque la chute dans l'eau, ça en vaut la peine, hein, le kayak. C'est super de faire du kayak. Vous savez comment on dit kayak à l'envers ? Bravo ! Ça c'est pas difficile. Alors Jésus, il faisait pas de kayak, mais il a quand même emmené ses disciples sur un bateau. Et pour eux, vous savez quoi ? Le plus difficile, c'était d'y monter. Même si c'était un bateau un peu plus gros qu'un kayak, le plus difficile, c'était d'y monter. Moi, j'aime quand Jésus dit à ses disciples, en montrant le bateau, « Venez, allons de l'autre bord, de l'autre côté du lac. » C'est comme s'il disait à ses disciples, « Allez, on va voir de l'autre côté ce qu'il y a. Enfin, je vais vous montrer quelque chose de nouveau de l'autre côté. Je vous emmène à l'aventure, en kayak, ou en barque, ou en bateau. Venez, suivez-moi, on va au large. » Mais c'est pas si facile de quitter la terre ferme. C'est pas si facile de quitter ses sécurités. Hein, on est bien sur le plancher des vaches. Et puis, il y aura peut-être des tempêtes sur le lac. Il n'y aura pas peut-être des tempêtes, il y aura sûrement des tempêtes sur le lac de la vie. Et donc, on hésite beaucoup. C'est pas comme si on allait aux îles de Lérins, que je nommerai pas parce que je confonds toujours entre Marguerite ou Catherine, je ne sais pas, c'est Sainte-Marguerite ? Marguerite et Saint-Honorat, voilà, je les ai, après 2 ans quand même. Parce que là, avec Jésus, on ne connaît pas vraiment la destination quand il nous amène sur son bateau. Donc il y a une certaine insécurité. Mais Jésus nous appelle à monter dans cette barque où il se tient, parce qu'il est là, dans cette barque, et le voyage à faire, l'aventure à mener, c'est avec lui. Et ça, c'est peut-être ce qui change tout et ce qui fait la différence. Dans cette barque un peu instable, on peut lui faire confiance, même si le vent se lève. Et il veut nous mener au large de son amour, de sa fidélité. Alors, il y a des tempêtes hein, sur le kayak et puis sur le bateau avec Jésus. Mais j'aime aussi cette phrase, « Il monta dans la barque, Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. » C'est pas les touristes, c'est pas les plagistes, c'est pas le propriétaire du bateau qui suit Jésus, c'est les disciples qui le suivent. D'ailleurs, c'est ce que font les disciples, ils suivent. Parce qu'à un moment, les disciples, ils doivent quand même prendre une décision, malgré les risques, malgré la tempête, malgré l'inconnu de la destination, malgré le fait qu'on ne voit pas ce qu'il y a de l'autre côté, eh ben, il faut se décider un jour de monter dans la barque, de monter sur le kayak, pour vivre l'aventure avec Dieu. Et quelques personnes parmi nous, Tracy et Claude, elle est là Claude, elle est arrivée, elles vont nous raconter tout à l'heure comment elles seront montées dans la barque de Jésus et elles vont nous dire un petit peu le voyage, quoi, le voyage qu'elles ont fait dans leur vie. Mais avant, nous allons chanter un chant de circonstance. Il est notre ancre et il est notre voile et avec lui, on peut lui faire confiance, on va naviguer, non pas peut-être dans les eaux tranquilles, mais en tout cas avec lui dans sa présence, celui qui parle au vent et à la tempête et qui la calme. On chante « Mon ancre et ma voile ». psaume 40 que nous avons lu tout à l'heure, enfin pas dans sa totalité, les premiers versets, qui est un psaume qui commence par déclarer la confiance que le psalmiste a en Dieu, qui est le soutien de sa vie. Et il continue assez, enfin c'est pas étrangement, mais j'ai beaucoup aimé la suite et on va la lire ensemble. Voilà ce qu'il dit, le psaume 40. Ô Éternel, mon Dieu, toi tu as accompli tant d'œuvres merveilleuses et combien de projets tu as formés pour nous, nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ta justice, je ne la tairai pas. Éternel, tu le sais. Non, je ne me retiens pas d'exprimer que tu es juste. Je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée. J'ai trouvé que ça allait super bien avec les témoignages de Claude et de Tracy. Le psalmiste a vécu quelque chose de fort et il ne peut pas se retenir de l'annoncer dans la grande assemblée. Il ne veut pas le cacher ou le garder pour soi parce que c'est trop bien, comme on dit en langage jeune. Et c'est aussi parce qu'elles ont vécu quelque chose de fort, enfin, j'imagine, dans leur vie avec Dieu, que Tracy et Claude vont partager leur témoignage avec nous ce matin, dans la grande assemblée, enfin réduite de moitié, mais quand même, la grande assemblée. Alors, elles sont volontaires pour rendre leur témoignage, mais c'est aussi parce qu'elles vont devenir membres de notre communauté, de l'Église évangélique libre de Cannes, qui est une sorte de bateau aussi. Il y a le grand bateau, l'Église universelle, l'Église invisible de tous les chrétiens, et puis il y a des petits bateaux locaux, des églises locales, et elles ont décidé aussi de venir ramer avec nous dans la barque, avec Jésus aussi, mais avec les autres frères et sœurs localement, ici à l'Église. Et on les remercie d'avoir pris la décision de venir ramer avec nous. Bon, c'est parfois un peu la galère, mais en général, ça se passe bien quand même. Mais bienvenue dans le bateau. Et c'est pour ça qu'on veut savoir ce qui s'est passé avant dans leur vie, pour pouvoir vraiment les accueillir dans le bateau. Et ça sera cet après-midi lors de l'Assemblée générale. Alors, je vais demander à Claude de s'approcher. Alors, j'ai mis un petit poisson Nemo. Parce qu'il avait un peu les couleurs de l'infirmière, tu sais, j'ai voulu. Et tu as été infirmière, hein, voilà, c'est ça. Et elle nous a laissé les premiers masques, alors que personne n'en avait, dans la boîte aux lettres. C'était en mai. On a trouvé trois masques dans la boîte aux lettres, et c'était de Claude. Et on te remercie encore pour ça. Vraiment une infirmière, un don de service. Tu penses aux choses. Alors, je te laisse la parole, mais je sais pas si...
Bonjour à tous. Je sais pas si... Voilà, bon, j'ai pas l'habitude de m'exprimer face à un auditoire, donc je compte sur votre indulgence, parce que je vais peut-être bafouiller un peu. Enfin, bon, je pense que ça va bien se passer. Alors, tout d'abord, je me présente, je m'appelle Claude Pi. Alors, ça n'a rien à voir avec l'oiseau ni 314, c'est Pi PY. Voilà, je suis mariée, j'ai deux fils d'une première union et un petit-fils. J'habite à Mougins. J'ai exercé en tant qu'infirmière, surtout en exercice libéral, durant 8 années à Cherbourg, en Normandie, et 34 années à Cannes. Je suis retraitée depuis 18 mois. Alors, en ce qui concerne mon parcours spirituel, les choses n'ont pas été très linéaires. Ça a été quelquefois un peu compliqué. Voilà, Eric, dans son message du 14 juin, évoquait le fait qu'il y a des conversions qui sont très fulgurantes, instantanées, immédiates, et d'autres qui, au contraire, se passent de façon très progressive, qui prennent du temps. Et moi, je rentre vraiment dans cette catégorie-là. Alors, je suis obligée de vous parler un peu de mon histoire familiale, évidemment. Je suis née dans une famille chrétienne, faisant partie du mouvement pentecôtiste en Normandie, à Caen, pour être précis. Mes parents étaient enseignants, mais mon père a reçu l'appel pour le ministère et il est devenu pasteur en 1959. Cependant, il n'a pas abandonné sa, sa profession. Donc j'ai été élevée à la fois avec un papa instituteur et pasteur, ce qui était assez inédit peut-être à l'époque en plus. Et il y a même eu un temps où j'avais mon père à la maison, le chef à la maison, le chef à l'école et le chef à l'église. Donc ce n'était pas toujours facile à gérer, voilà, surtout qu'il était assez autoritaire. Donc. Alors mes parents ont fondé la première église évangélique pentecôtiste de Cherbourg. Il y avait quelques chrétiens au départ, des gens qui avaient eu des contacts, qui étaient 5 ou 6, il y avait un tout petit noyau. Et c'est une église qui a fini avec une centaine de membres. Voilà, quand il a quitté Cherbourg, il y avait une centaine de membres. Mais c'est vrai qu'avec leurs activités religieuses et leurs activités d'enseignants en même temps, le rythme de famille à la maison, c'était vraiment effréné, quoi. En plus, on habitait à 20 km de Cherbourg, parce qu'ils étaient instituteurs en campagne, et on était tout le temps sur la route. Enfin bon, c'était compliqué. Donc je peux dire qu'avec mes frères et sœurs, j'ai un petit frère qui est là d'ailleurs, qui est venu aujourd'hui, on a vraiment usé les bancs de l'église, hein. Parce qu'on vivait complètement au rythme de nos parents. Alors on avait le culte le matin, la réunion d'évangélisation l'après-midi, 2 réunions en semaine de prière et d'évangélisation. À l'époque, le catéchisme, enfin l'école du dimanche, comme on appelait, ça avait lieu le jeudi matin, puisqu'on était en congé le jeudi. Donc on était tout le temps en activité à l'église. Voilà. D'ailleurs, c'est une anecdote, le voisin immédiat de l'église, il nous voyait tout le temps là, et finalement, quand il nous voyait arriver, il nous avait baptisés, il nous avait donné un qualificatif, il nous appelait les petites pasteurisées. Donc, ça faisait beaucoup rire mon père. Alors, durant l'enfance, je n'ai pas trop mal vécu cette situation, où j'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup présente à l'église, mais je me suis trouvée quand même un peu en overdose en arrivant à l'adolescence, hein. Alors, j'avais accepté Jésus comme mon sauveur, j'étais croyante, bien sûr, mais j'étais dans une sorte de routine de torpeur spirituelle, je ne savais pas trop où me situer quand même. Et à l'âge de 13 ans, on m'a suggéré de façon assez impérieuse que ce serait bien si je demandais le baptême. Parce qu'à l'époque, on était baptisés assez tôt dans les églises pentecôtistes, donc je me suis dit que ça ferait plaisir à tout le monde, ça ne mangeait pas de pain. J'ai donc obtempéré, je n'ai pas discuté parce qu'on ne discutait pas, et puis je n'étais pas vraiment convaincue de la nécessité à ce moment-là. Alors en fait, j'étais loin d'être une rebelle, mais pendant ma jeunesse, plus tard, j'ai mal vécu l'austérité qui caractérisait quand même les églises de Pentecôte de l'époque, il faut le reconnaître. Donc il y avait beaucoup d'obligations, beaucoup d'interdictions, et ce n'était pas toujours facile à respecter, et on ne se souciait pas trop du respect de la personnalité de chacun. On était quand même assez formatés, je trouve, et à mon avis, on s'attachait à des choses très insignifiantes, mais pour des jeunes qui prennent quand même des proportions, hein. Et qui, pour ma part, m'ont quand même éloigné de l'Église, malheureusement. Donc, il faut que je fasse une aparté. Mes parents, d'ailleurs, ont pris conscience au bout de quelques années de tout ça, et ils se sont ouverts à l'œcuménisme, et ils ont beaucoup fréquenté la Porte Ouverte à Chalon-sur-Saône, Thésée, et ça leur a permis d'avoir une ouverture d'esprit et de comprendre certaines choses. Ça leur a valu pas mal de critiques et d'incompréhensions dans le milieu de Pentecôte, d'ailleurs. Pour en revenir à moi, donc je m'étais éloignée de l'église, je suis arrivée à Cannes en 86. Suite à un divorce, j'ai élevé mes 2 enfants seuls et mon activité d'infirmière libérale m'obligeait à travailler presque tous les week-ends. Donc dans ce contexte, je ne me suis pas rapprochée d'une église ici et pour être honnête, je n'en ressentais pas vraiment le besoin. En fait, une fois, je suis quand même venue dans cette église parce que mes parents qui avaient pris leur retraite à Cannes, mon père était originaire, lui, du Sud, m'ont demandé de venir ici, c'était il y a une quinzaine d'années, et je suis venue à un culte un matin au mois d'août, et après, ben, c'est passé, quoi. J'ai oublié, voilà. Et mon papa d'ailleurs a servi le repas à l'association J'avais faim pendant plusieurs années, jusqu'à son décès. Et quelquefois, je pense que ce sont les épreuves qui nous rapprochent de Dieu, moi ça a été le cas, parce que j'ai perdu successivement mon papa de façon brutal, et mon neveu, le fils de ma sœur, qui avait 20 ans. Et là, ça a été vraiment un chagrin terrible, quoi. J'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre, et j'ai ressenti le besoin à ce moment-là de me rapprocher du Seigneur. Mais je ne suis pas venue dans l'église tout de suite. J'ai d'abord fréquenté l'église de Mougins, du vieux Mougins, l'église catholique. Donc je suis allée pendant plusieurs années à l'église catholique. Et puis j'ai beaucoup écouté les émissions de RCF aussi, à la radio, qui sont excellentes et enrichissantes. Et j'ai ainsi redécouvert petit à petit la vie chrétienne. Voilà. Et puis il y a 8 ans, je me suis souvenue de cette église. Donc je suis venue, j'ai poussé la porte, comme on dit, et j'ai apprécié l'accueil, la convivialité, l'ouverture d'esprit, le respect de la personnalité de chacun, et puis les messages délivrés par les pasteurs successifs m'ont beaucoup apporté, et j'ai trouvé la sérénité qui me manquait. C'est pourquoi je pense qu'il est temps pour moi de devenir membre officiel. Ça paraît logique, il était temps, vraiment. C'est vrai que mon second mari n'est pas chrétien, et il est vrai que je ne dispose pas d'une totale liberté pour participer à la vie de l'Église, aux activités, mais je fais de mon mieux pour concilier ma vie familiale et spirituelle sans provoquer de tensions, de heurts. Voilà, ben, c'est tout. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Que Dieu bénisse cette Église. Merci.
Merci beaucoup, Claude. Et le deuxième témoignage, Tracy. Et j'ai mis... Alors, c'est pas Tracy sur la moto, mais c'est une moto Guzzi. C'est une moto Guzzi. Et entre autres, Tracy est, comment on dit, motarde. Et puis, elle nous vient aussi des États-Unis, mais c'est elle qui va nous raconter ça.
Pensée complètement compréhensible, mais voilà, on va y essayer. Je suis contente d'être là. Me voilà devant vous pour vous donner mon témoignage de foi en Jésus-Christ. Merci. Et pour vous parler de comment j'en suis arrivée là. Et pour vous témoigner comment notre Seigneur est le Dieu qui nous offre une deuxième chance dans la vie. Je n'attendais jamais, en fait, d'être la personne qui en aurait eu besoin. Vous connaissez déjà que je suis née à San Diego. J'ai passé mon enfance dans une famille protestante, dans une église presbytérienne, toujours entourée par les autres chrétiens. C'est tout ce que je connaissais vraiment. J'ai accepté Christ quand j'étais très jeune, mais je suis allée à l'église parce que j'y étais obligée. Mes parents faisaient 3 services par jour, ils étaient toujours là, et je n'appréciais pas du tout le culte. Un peu comme Claude quand on a parlé de l'époque, la même époque. Plusieurs années après avoir quitté cette église, je n'allais plus à l'église pendant presque 10 ans, j'ai fait la découverte d'une Evangelical Free Church à San Diego, et qui m'a vraiment plu. Le message, les gens, l'esprit là, c'était formidable. Et moi, je me suis mariée avec un homme croyant. On avait une entreprise ensemble et tout était tranquille dans ma vie. J'étais un peu, comment dire en anglais, a sleeping Christian, un chrétien qui dort un peu. Parce qu'on ne s'était pas du tout impliqué dans la vie de l'Église. Bien qu'on était allé à l'Église, nous ne faisons rien, nous ne participons pas. Nous étions des consommateurs d'Église, pas des participants. Cela m'a toujours gênée et petit à petit, nous assistions au culte de moins en moins. Puis, après 25 ans, le mariage est tombé dans l'eau, tombé à l'eau. Notre entreprise a commencé à se couler. Et moi, ma mère et moi, à l'époque, vivaient à Cabrice, ici. Et donc, en 2014, je me suis trouvée en France toute seule, divorcée, loin de ma famille et la plupart de mes amis, et surtout loin de mon entourage chrétien, de mon entourage croyant. Et je ne me suis jamais dit, si je commence à vivre comme une non-croyante. Mais c'est comme ça que le péché, ça entre dans nos vies. Ça commence à travailler dans nos vies, par des tout petites transgressions, des tout petites choses. Je ne lisais plus la Bible, je ne priais plus, je ne faisais plus partie d'une église et je ne connaissais personne qui était croyant, personne du tout. J'ai rencontré un Français, pas croyant, mais à ce point-là, je me suis dit, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre un homme croyant et un homme non-croyant? Et pendant 3 ans, j'ai suivi des cours de français, que j'aurais dû peut-être faire encore 4 ans, mais je ne sais pas. J'ai suivi des cours de français pour apprendre la langue. Petit à petit, j'ai commencé à enseigner anglais, et tout va bien. Mais en fait, rien n'allait pas bien. Rien n'allait bien. Je n'étais pas bien dans ma peau. J'avais la sensation toujours au fond de moi d'être coupable, de vivre dans une façon qui ne plaisait pas à Dieu. Comme David a écrit en Psaume 51, la pensée de mon péché me poursuivait sans cesse. La vérité, c'est ce que, quand elle est croyante vraiment, quand l'Esprit Saint habite dans nous, nous ne sommes pas contentes en dehors de la volonté de Dieu. Et quand nous sommes en train de désobéir ses commandements, Dieu ne peut pas nous bénir. Donc un jour, je me suis dit, ça suffit. Et j'ai commencé à écouter les prédications d'un pasteur américain que j'apprécie beaucoup, Greg Laurie. J'ai sorti mon Bible, j'ai enlevé les poussières, et j'ai commencé à lire et à prier, et de confesser, et de demander pardon. D'avoir erré si loin tes chemins. Et Dieu est si bon. Ce n'était pas moi, c'était lui qui est venu me chercher. Bon. de m'appeler et de dire, reviens, je suis là. J'étais toujours là. Je suis comme le brebis qui s'est égaré. J'étais comme le brebis qui s'est égaré. Et le fils qui est retrouvé. Donc, après quelques semaines, je me suis dit, il me faut une église. Écouter des podcasts de prédication, c'est bon, mais ce n'est pas une église, ce n'est pas une famille. Où est-ce que je vais trouver une église? Et donc, j'ai commencé à faire des recherches par Internet et je suis tombée sur l'église évangélique de Cannes. Et je me suis dit, mais ça, c'est comme celui que je suis allée aux États-Unis. Et dès le premier jour, j'avais l'impression d'être home. Mais cette fois, je me suis dit, je ne vais pas répéter les mêmes erreurs. Je ne vais plus être un consommateur de l'Église. Je vais servir, parce que maintenant, je comprends. Je comprends que nous sommes une famille, un corps chacun, avec un don différent, comme on dit en Corinthiens. Et Dieu a fait tellement pour moi. Il m'a pardonné, il m'a rempli de tellement de joie et d'amour, que rien ne m'empêcherait de partager ça avec les autres. Et je voulais dire encore une chose. Depuis que je suis retournée vers mon Seigneur, tout va bien, même quand ça ne va pas bien. Je ne dis pas que je n'ai plus de problèmes, au contraire peut-être, mais pour la première fois de ma vie, je n'ai pas du tout peur pour rien. Parce que maintenant, j'ai vu les deux côtés de la vie, sans Christ. Avant, j'avais pris mon salut trop à la légère, vraiment. Et pas maintenant. En plus, j'ai vu tellement de miracles depuis que je suis retournée à le bon chemin. Et je sais que quoi qu'il m'arrive, c'est pour la gloire du Seigneur. Et ça, c'est ça qui compte, c'est tout ce qui compte. Et si tu n'es pas croyant, si tu n'as pas encore demandé au Jésus-Christ de venir habiter dans ton cœur, tu ne peux pas savoir cette paix dont je suis remplie. Avoir l'assurance de ton avenir et être au paradis avec le Seigneur. Mais ce n'est pas ça seulement, comme si ça ne s'est pas assez. En plus, Jésus marche avec toi tous les jours et tu n'as qu'ouvre les yeux si tu lui appartiens et voir tous les miracles qui surviennent autour de toi. Je suis vraiment contente de devenir membre de cette Église. Merci de m'avoir accueillie si chaleureusement.
J'ai décidé de marcher dans la vérité et qui va très bien avec ce que Claude et Tracy nous ont partagé. Chantons ensemble.
J'ai décidé de vivre dans ta sainteté.
Seigneur, merci pour ce témoignage de Claude et de Tracy. Merci pour ces chemins de vie où tu as tendu la main par ta grâce. Parce que, comme elles l'ont dit toutes les deux, elles se sont à un moment éloignées, égarées peut-être. Et Seigneur, toi le bon berger, tu es venu les chercher, tu as abandonné les 99 autres pour aller les chercher. Et on te remercie, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui vient chercher et qui accueille le fils prodigue ou la fille prodigue. Et on te remercie pour ces chemins de vie, ces chemins de grâce où tu interviens dans les vies. Et Seigneur, nous te rendons grâce pour ça. Et on remercie Claude et Tracy de l'avoir partagé, d'avoir pris le courage de le faire et de nous encourager. Et peut-être que certains d'entre nous sommes aussi un peu loin du Seigneur ou carrément loin du Seigneur ce matin. Et Seigneur, en entendant ces témoignages, peut-être qu'on a envie de te retrouver, d'ouvrir la porte à nouveau et de te laisser entrer pour que tu puisses manger avec nous, comme dit l'Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je dînerai de ce dîner de fête avec lui, avec elle. Seigneur, merci parce que ton bras n'est pas trop court pour sauver encore maintenant. Et on te prie pour Tracy et Claude de continuer à agir dans leur vie, à les accompagner dans la barque de leur vie, malgré les tempêtes, parce qu'il y en aura, comme elles l'ont dit toutes les deux. Malgré les oppositions, malgré l'adversité, tu es là dans nos barques et on peut te faire confiance. Et elles peuvent te faire confiance. Merci pour ta fidélité qui se voit dans les vies. Merci pour cet avenir, cette espérance qui est en toi et qui transforme notre présent. Nous te prions pour que chacun ici, et puis pour tous ceux qui n'ont pas pu venir ce matin, nous puissions rester accrochés comme une ancre à cette espérance et que ton Saint-Esprit puisse souffler dans nos voiles pour nous mener au large de ton amour et de ta fidélité encore une fois. Par ta grâce, Seigneur, nous te prions et dans le nom de Jésus, celui qui nous précède sur le chemin de la vie. Amen. Sans transition, je vous parle du temps d'offrande qui sera dans la corbeille, là, avec un petit smiley qui accueille votre paf. Alors, je ne sais pas si ça se disait en France, mais nous, en Belgique, à l'époque, on parlait de paf, il y avait un petit panier à la fin de nos réunions, paf, participation aux frais. Non, vous ne le disiez pas, hein, voilà. Mais et souvent, je disais que pour l'Église, ce n'est pas vraiment une participation frais. Si, il y a le chauffage, enfin, il ne marche pas beaucoup, il y a l'électricité à payer, il y a même un individu à payer, le chef, comme disait Claude, qui n'est pas un chef, c'est Jésus-Christ. Enfin, il y a le pasteur, il y a des frais. Mais c'est avant tout, il me semble, cette offrande, une participation à la foi, un paf aussi. Mais une participation à la foi, parce que l'offrande, c'est une manière de dire « Oui Seigneur, je te fais confiance, oui Seigneur, je crois en ton royaume, oui Seigneur, je crois en ton espérance, je crois en l'avancement de ton règne, ici à Cannes, ici en France et dans le monde, et je veux mettre ma participation, ma foi, comme une participation à ça. » Que le Seigneur nous bénissent ensemble dans la barque, alors que nous ramons ensemble, que chacun donne, et je le répète à chaque fois parce que c'est important, comme il a résolu, comme il l'a décidé lui-même dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Et ne voyez pas mon allocution sur l'offrande comme une contrainte, mais vraiment comme une présentation de ce qu'elle peut être dans nos vies, en toute liberté et avec cet aspect volontaire qui va avec, et le côté joie également. Voilà, alors, les annonces tout à l'heure, à 14h30, nous avons nos assemblées générales, l'assemblée générale d'abord de l'association culturelle qui s'appelle Les Amis de l'Église, pendant une demi-heure, et puis après, l'association culturelle qui s'appelle l'Église évangélique libre, Free Evangelical Church of France, l'Église évangélique libre de Cannes. Et je veux dire, ce sont deux associations, mais une même communauté. C'est important de savoir, ce n'est pas deux associations parallèles, c'est deux associations pour une même communauté. Et on va vivre donc ces assemblées générales tout à l'heure, et on va aussi accueillir Tracy et Claude en tant qu'assemblée générale, comme membres officiels de l'Église. Et donc il y a un côté administratif, mais il y a surtout le côté spirituel qui prime là-dedans. On est ensemble. Et puis, autre annonce, dimanche 5 juillet, culte public encore. Comme d'habitude, mais encore sur inscription, parce qu'on n'a pas encore eu d'élargissement ou d'assouplissement des règles. Toujours auprès de Sylvie, qu'on remercie pour ce travail, parce que c'est pas facile. Elle doit refuser des personnes, et ça c'est vraiment le côté négatif de l'histoire, et c'est un crève-cœur cette histoire. Mais merci à toi Sylvie pour tout le boulot, et le résultat est là, c'est que vous êtes là. Bon, et alors je précise, à 10h, on rentre en juillet, et en juillet et août, c'est la tradition dans l'Église, mais qu'en été on commence un peu plus tôt pour permettre aux personnes de se garer, parce qu'à 9h30 ou 10h moins le quart, il y a plus de place qu'à 10h15. Donc voilà, la semaine prochaine, c'est à 10h, faites-le savoir. Et puis, week-end d'Église, on l'annonce depuis un petit temps, 10, 11 octobre, réservez cette date, et là, on va faire le plein, on va être 100, 120. Ça, c'est de la prophétie gratuite, mais non, on sera peut-être 80, mais ça sera déjà pas mal. Mais réservez cette date, ce sera l'occasion de lancer, de nous relancer après cette période tellement étrange. Et ça sera Yves Pisan, que le pasteur qui était à Saint-Jean-du-Gard avant, mais que vous avez bien connu pendant 2 ans ici, qui va nous encourager ensemble, en tant qu'Église et en tant que communauté. Et il sera là avec son épouse, Marilène, je crois. En octobre, on espère qu'il n'y aura plus de masques, comme on parlait de tempête, il y aura peut-être la deuxième vague aussi, mais bon. Et puis vous avez toujours à disposition le site de l'Église ou le site de l'Union des Églises évangéliques libres de France, qui aussi est à consulter. On va prier.
Prions. Notre Père, toi qui nous connais et toi qui nous aimes, Nous te remercions de ta bienveillance et de ton amour. En ces temps difficiles, nous te prions de bénir notre Église. Je pense particulièrement à Claude, à Tracy, qui ont décidé de faire route avec nous sur le chemin du Seigneur. Nous te prions pour elles et pour leur famille, Seigneur. Accompagne-les. Nous te prions aussi tout spécialement pour les malades, les personnes fragiles, celles qui se sentent seules. Nous te prions pour ceux qui s'inquiètent pour leur avenir, les jeunes qui n'ont pas encore terminé leurs examens, ceux qui cherchent leur voie, et aussi pour ceux qui ont perdu leur emploi ou sont inquiets à ce propos et cherchent du travail. Nous te demandons aussi ta bénédiction sur notre union, sur nos pasteurs, pour tous ceux qui, jour après jour, œuvrent à faire connaître ta parole. Bénis-les, Père. Renouvelle leur force. Que tous, nous nous remettions complètement à ta volonté, à ta bonté et à ta grâce. Nous voulons également te prier pour ceux qui sont écoutés dans le monde. Toi qui possèdes clairvoyance et toute puissance, que ton Esprit Saint les pénètre, qu'il ouvre leurs yeux et guide leurs décisions. Nous te prions enfin pour ton Église universelle, pour que tu inspires et protèges tous ceux qui espèrent en toi et qui veillent et travaillent en attendant le retour de ton Fils. Père, pose ta main bienveillante qui rassure et qui conduit sur leur vie et tous ceux qui te recherchent et dont le chemin se dirige vers toi. Que toute la création te bénisse et te glorifie. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, ton Fils. Amen.
Nous chanterons un dernier chant ensemble. Je me confie en toi pour cette route qui est devant nous. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il a dit aussi dans le même chapitre, Jean 14, « Celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui », nous dit Jésus. Christ nous précédant sur le chemin de la vie, marchons en avant. Sa voix sainte nous convie à le suivre enfin au séjour divin. Que la grâce et la paix de Dieu nous accompagnent sur le chemin de la vie. Amen. Bon dimanche. Vous tous qui êtes dans la barque et que Jésus a fait pêcheur d'hommes.